l'interférence et l'utilisation d'éléments d'une langue. L'interférence et l'utilisation d'éléments d'une langue quand on parle ou on écrit. Une autre langue. Donc l'interférence et l'utilisation d'éléments d'une langue quand on parle ou on écrit une autre langue. C'est une caractéristique du discours et non du code. Et non du code. Pardon. Donc c'est une caractéristique du discours et non du code. Elle varie qualitativement et quantitativement. Elle varie qualitativement et quantitativement de bilingue en bilingue. En bilingue, selon le type de bilingue, si vous préférez. Et de temps en temps, elle varie chez un même locuteur, chez un même individu du parle à la place de locuteur. Je vous la refais. L'interférence est l'utilisation d'éléments d'une langue quand on parle ou on écrit une autre langue. C'est une caractéristique du discours et non du code. Elle varie qualitativement et quantitativement de bilingue en bilingue et de temps en temps, elle varie chez un même individu. Donc, il existe trois types d'interférences, les interférences phoniques, syntaxiques et lexicales. Donc, phonique, tout à l'heure, je parlais du R. D'accord ? Donc, l'utilisation d'un R de sa propre langue dans la langue de l'autre. Syntaxique, il s'agit de l'organisation d'une phrase en langue B, selon les structures de la langue A. Okay. C'est-à-dire quand vous appliquez la structure de votre langue à la langue que vous voulez parler, notamment, enfin, l'exemple que j'aurais, ce serait l'allemand, qui met le verbe à la fin, le participe passé en tout cas. Donc voilà. Si en français vous mettez les verbes à la fin. Et lexical, notamment c'est le cas des faux amis. Hein. Par exemple, librairie en anglais et en français, qui n'ont pas le même sens.
Caméra,
exact. Aussi. Vous en avez, vous, des interférences ou pas?
Des interférences par rapport à notre langue?
Mm.
Ouais. Des faux amis, par exemple. Oh, le plus rigolo, c'est constipé, parce que chez nous, être constipé, c'est avoir de la grippe. Ah, ici, c'est complètement différent.
Ok. Et on a aussi l'interférence culturelle. Donc, pour parler d'une réalité, le locuteur utilise le terme qui correspond au concept dans sa langue. Que je vous prenne l'exemple des étages tout à l'heure. Ça va être une interférence culturelle. Le fait que vous me disiez qu'on est au quatrième étage, alors qu'en fait, pour moi, on est au troisième. C'est ça, il y a un étage de plus pour vous que pour moi. D'accord ? Si par exemple, à chaque fois qu'il parle d'un étage, il utilise sa propre façon de compter les étages, qui est propre à sa culture, il y a interférence culturelle. Oui ? Ok. Donc, ça c'était pour l'interférence, on va passer à l'emprunt. Donc, l'emprunt, c'est le passage d'un terme appartenant à une langue directement et intégralement, signifiant et signifié, dans le contexte d'une autre langue. Donc, je vous le donne à nouveau. L'emprunt, c'est le passage d'un terme appartenant à une langue. Donc, le passage d'un terme appartenant à une langue directement et intégralement entre parenthèses signifiant et signifié dans le contexte d'une autre langue. Donc l'emprunt est le passage d'un terme appartenant à une langue directement et intégralement, signifiant et signifié, dans le contexte d'une autre langue. Donc là, normalement, vous devez vous poser la question de savoir quelle est la différence entre l'interférence et l'emprunt. Est-ce que c'est clair ? Oui, est-ce que vous voyez clairement une différence ou pas ?
Non.
Ok, ça me rassure. Donc, en fait, la différence entre l'interférence et l'emprunt, c'est que l'interférence est un phénomène individuel, non intentionnel et non stable. Et que la fréquence des interférences, enfin le nombre d'interférences, peut varier en fonction du style de discours, de la situation, du rôle social du locuteur, donc globalement en fonction du contexte, en tout cas de ce qu'on appelle la situation depuis le début. Oui ? Alors que l'emprunt est généralisé, généralement à l'ensemble de la communauté linguistique, et il appartient au domaine de la langue. Ok. Donc, on a vu l'interférence, on a vu l'emprunt, et il y a un sous-ensemble d'emprunt qui est l'emprunt adapté. Et un emprunt adapté, c'est un emprunt qui a subi les modifications de la langue dans laquelle il s'insère.
Subi des modifications
suivant les règles de la langue dans laquelle il s'insère. Si par exemple vous prenez le verbe check en anglais et vous mettez checker, donc la forme verbale ER, et que vous le conjuguez, vous adaptez juste un mot anglais à la grammaire française. Oui. Donc là, c'est un emprunt adapté. Donc est-ce que... Oui.
Non, ça c'est la même question, parce que hier j'ai pensé à ça. Carotte, c'était d'abord anglais ou c'était d'abord français? Les mots carotte. Si c'est un emprunt, il y a un emprunt de...
Alors, normalement, les Anglais ont pris un certain nombre de mots qui viennent du français, donc probablement que ça vient du français, mais c'est une citation. Il faudrait regarder dans deux dictionnaires, un français et un anglais, pour voir l'apparition du mot. Par exemple, dans les dictionnaires Le Petit Robert, vous avez une date qui correspond à l'apparition du mot, et donc voir laquelle est la première. Donc, il y a aussi le calque, qui est une forme d'emprunt. Le calque. Donc en fait, oui, c'est une forme d'emprunt, par exemple, gratte-ciel et skyscraper ou libre penseur qui donne free thinker sont des calques. On a utilisé exactement le même type d'organisation. Voilà pour les emprunts et l'interférence. Donc vraiment ce qui en plus de la définition et du sens, ce qui compte vraiment c'est que l'interférence est individuelle alors que l'emprunt c'est général. Lequel donc c'est une forme d'emprunt. Et si par exemple je prends gratte-ciel. Ça donne. Ok, c'est vraiment, on a calqué le mot français sur le mot anglais. Oui? Si, mais si, c'est vraiment. On aurait pu couper ainsi, quoi. Vous voyez, c'est comme libre penseur et free. Désolé pour l'accent. Thinker, ok, free, libre et penseur. Vraiment, on a calqué le mot français sur le mot anglais ou peut-être l'inverse. Un autre exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'utilisation d'un terme d'une autre langue pour parler d'un concept. Est-ce que le mot sofa existe en japonais? Il existe en japonais. Bon, le mot sofa n'existe pas en coréen du Sud. Donc, pour parler d'un sofa, ils n'ont que le mot français à leur disposition. Puisque c'est un concept qui ne leur appartient pas, le sofa, en même temps qu'il a été importé, ils ont gardé le terme, ils n'ont pas créé dans la langue propre un terme qui correspond à ce concept. Oui ?
Comme ici, par exemple, Mikan.
Comment ?
Comme ici, Mikan. On n'a pas le nom propre, on n'a pas le nom propre.
Oui, chez nous, ça fait fin de semaine, et pour nous, la fin de semaine, c'est plutôt vendredi. Je dis vendredi.
Oui, ma petite femme.
Oui. Oui. Pour week-end correspond à samedi dimanche et fin de semaine correspondra plutôt vendredi. Effectivement, on n'a pas d'équivalent pour juste samedi dimanche. Donc j'en étais où ? Donc on a fini avec l'emprunt et on va passer au petit B. Le petit A étant l'interférence et l'emprunt, au parler accroché. Donc, les parler approchés, Josiane Boutet parle, elle, d'interlangue. Et Louis-Jean Calvet parle, quant à lui, de langue approximative. Donc, les premiers cas d'interférence et d'emprunt, on est dans un cas, dans le premier cas de figure dont j'ai parlé tout au début du cours, où le locuteur vient dans le but d'acquérir la langue de l'autre. Donc, les parler approchés ou interlangues d'une langue approximative, c'est l'autre cas de figure, c'est-à-dire quand il n'y a pas moyen de communication autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas une langue avec laquelle arriver à communiquer. Donc, Calvet explique qu'il y a deux cas. Il y a le cas de la personne de passage, type le touriste qui vient, qui ne connaît pas la langue et qui repart. Et il y a la personne qui arrive et qui reste. Donc, qui va être obligée, qui, avec le temps, va finir par être le premier cas de figure. Okay ? Il va chercher à mieux connaître la langue. Donc, Pour commencer, on va parler des langues, enfin, on va définir les langues véhiculaires. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ok, donc la langue véhiculaire, c'est une langue qui est utilisée pour la communication entre des groupes qui n'ont pas la même première langue. D'accord? Donc, c'est la langue utilisée pour la communication entre des groupes qui n'ont pas la même première langue.
C'est par exemple l'anglais, c'est-à-dire si quelqu'un arrive à Paris, il ne parle pas le français, il peut se communiquer, il va essayer de parler une langue, même si ce n'est pas l'anglais, c'est la même langue.
Voilà. Là, justement, dans ce cas-là, l'anglais va avoir une fonction de langue véhiculaire, c'est-à-dire qu'il va permettre, enfin, pour vous souvenir un petit moyen de technique, c'est que c'est la langue qui permet de véhiculer l'information. Entre vous, oui. Parce que pour moi, le français est une langue vernaculaire. D'accord? Oui, pour vous, oui. Le français est une langue véhiculaire. Donc, pour moi, la langue, le français est une langue vernaculaire qui correspond à une langue endogène propre à ma communauté linguistique. Endogène. Et une langue endogène, c'est une langue qui prend naissance à l'intérieur de quelque chose, enfin à l'intérieur d'une communauté. Ok, ce qui est endogène, enfin, on parle d'une langue, mais ça peut être tout autre chose, c'est ce qui prend naissance à l'intérieur. Endogène, l'opposé c'est exogène, et ça je vous laisse chercher, on en parlera plus tard. Je pense que le petit topo qu'on va avoir un peu plus tard va être très clair quant aux langues véhiculaires. Donc, moi je vais arrêter là. Donc, ensuite, après les langues véhiculaires, on va parler des interlangues. Donc, je vous donne une définition. L'interlangue, ça appartient aux étapes successives dans le processus d'apprentissage d'une seconde langue, dans lesquelles les productions langagières de l'apprenant représentent les approximations systématiques de la langue cible. Donc, étapes successives au pluriel, dans le processus d'apprentissage d'une seconde langue, donc étapes successives dans le processus d'apprentissage d'une seconde langue, dans lesquelles les productions langagières de l'apprenant représentent des approximations systématiques de la langue cible. Donc, étapes successives dans le processus d'apprentissage d'une seconde langue, dans lesquelles les productions langagières de l'apprenant représentent des approximations systématiques de la langue cible. Donc, étapes successives dans le processus d'apprentissage d'une seconde langue, dans lesquelles les productions langagières de l'apprenant, représentent des approximations systématiques de la langue cible. Tout le monde là? Ok, donc la langue cible, c'est la langue qu'on cible, c'est la langue qui doit être acquise ou qui va être acquise. Votre langue cible, c'est le français. Et votre langue source, c'est votre langue vernaculaire. D'accord? Parce qu'on est dans un cas de... C'est une question de point de vue, et là on est dans le cas de l'acquisition et du bilinguisme. Et quand on parle de bilinguisme, on utilise le terme de langue source pour la langue d'origine et de langue cible pour la langue qu'on veut apprendre. Et il doit y avoir le cas du problème du bilinguisme très précoce, où finalement on ne sait pas laquelle des deux langues est maternelle. Donc langue source vers langue cible. C'est comme langue A et B. Hein. Mais ça, on le verra plus précisément au moment du bilinguisme. Donc généralement, les interlangues ont des formes approchées avec une simplification de la morphologie. Hein. Souvent une instabilité du système des pronoms. Par exemple, l'utilisation de moi à la place de je. Moi parle, je parle. Vous n'avez jamais fait ça, vous hein? Quand vous avez acquis la première langue pour faire le français. Ça m'assure, merci. Le recours à la langue première, c'est-à-dire quand vous ne trouvez pas le terme que vous voulez en français d'utiliser, hein, celui de votre langue source. Hein. Et la création morphologique, c'est-à-dire quand. Par exemple, en espagnol, si je ne me trompe pas, cuisine se dit cuisina.
Cocina.
Ok. Cocina. Et donc, alors que nous, on dit cuisine, donc si ça donne cocina. C'est-à-dire que vous gardez le début en espagnol et vous essayez de mettre la fin en français. D'accord ?